France Bleu Besançon, à votre service.
Et jusqu'à 10h, 03 81 833 111, on change complètement d'univers, Loïs. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'un prêt, peut-être pour acheter un jukebox pour votre collection. Vos questions à notre courtier, à votre courtier indépendant, Loïs.
Oui, tout à fait. Philippe Brenet avec nous aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Donc courtier indépendant du côté de Besançon, vous allez pouvoir nous éclairer un peu sur toutes ces questions. Beaucoup de questions qui peuvent venir sur ce sujet justement pour obtenir un prêt. Les taux sont-ils intéressants? Eh bien on en parle avec vous ce matin.
France Bleu Besançon, à votre service.
Alors on entend souvent dire, Philippe Brenet, que les courtiers sont de plus en plus demandés parce qu'on a du mal un peu à se retrouver au milieu des offres, des prêts, etc. Est-ce que vous le ressentez vous aussi? Alors
oui, tout à fait. La part de courtage en prêt immobilier augmente d'année en année. Début des années 2000, ça représentait à peu près 10% de production de prêts immobiliers sur le territoire national. Mmh. Aujourd'hui, on avoisine les 40% de part de prêts immobiliers fait par un courtier, ce qui fait à peu près un dossier pour deux, ce qui est déjà considérable.
D'accord.
La moyenne européenne est entre 40 et 60%. On est un petit peu sur la moyenne basse en France. Suite à, il faut que les mœurs se rentrent petit à petit, mais ils s'ancrent de plus en plus et sont vraiment bien ancrés.
Alors je pense à tous ceux qui ne voient pas forcément à quoi peut servir un courtier. Vous êtes utile dans quel type de domaine par exemple?
Alors on est courtier en prêt immobilier, donc on s'intéresse uniquement à la partie prêt immobilier pour toute acquisition en résidence principale, en résidence locative, en résidence secondaire également. Il faut reconnaître que 80-90% de notre activité est sur la résidence principale et le courtier intervient un petit peu dans trois phases du projet du client. Une première phase de conseil, d'apprentissage de son prêt immobilier, de lui expliquer un petit peu les critères d'octroi, est-ce que sa situation se prête à l'achat de sa résidence principale dès maintenant, ou est-ce qu'il faut qu'on le conseille pour qu'il la prépare un petit peu. Et puis on arrive à une deuxième phase où quand il a trouvé son bien, on rentre dans la phase de négociation de son prêt immobilier, où là on va faire le tour des banques pour lui. Sur Besançon, on a à peu près une dizaine de banques partenaires, donc quasi toutes, et on va pouvoir comparer tout ce qui est taux, assurance, frais de garantie, frais de dossier. Et puis si la négociation a convenu au client, on rentre dans la troisième phase de notre métier, qui est de l'accompagner dans toutes les démarches administratives de la mise en place de son prêt immobilier.
D'accord.
En l'accompagnant auprès du banquier et en le suivant administrativement jusqu'au déblocage des fonds chez le notaire.
On comprend que c'est vraiment un métier, c'est difficile de suivre toutes ces offres, de pouvoir être au point sur les taux également, tout ça.
Ouais. C'est vraiment un métier. On retrouve beaucoup de gens avec mon profil qui sont au départ des anciens banquiers et qui ont voulu se professionnaliser dans le métier de prêt immobilier pour quitter un peu le domaine généraliste. C'est un peu comme quand vous allez chez le médecin. Vous avez le médecin généraliste, le banquier qui va vous faire aussi bien du prêt, de l'épargne, de l'assurance à aujourd'hui. Et puis vous avez le spécialiste qui est le spécialiste en prêt immobilier et qui est souvent le courtier en prêt immobilier.
Est-ce le moment d'acheter? Est-ce que les taux sont bons? Je crois qu'ils descendent.
Hein. Alors, on ne va pas s'enflammer.
On ne s'enflamme pas. Peut-être pour les taux, mais on va s'enflammer pour la musique. 03 81 833 111. Vous nous appelez bien évidemment si vous avez une question à poser à notre courtier indépendant Philippe Brenet. Les courtiers à Besançon, on parle de prêts immobiliers ce matin sur France Bleu Besançon. Est-ce le bon moment pour emprunter un expert, un spécialiste à votre service, Loïs Paton? Votre invité Philippe Brenet sur France Bleu Besançon ce matin et vos questions au 03 81 833 111.
Oui, n'hésitez pas, Philippe répond à vos questions ce matin. Justement, parlons-en de ces taux-là. Est-ce qu'ils sont intéressants en ce moment, Philippe? Est-ce que c'est le bon moment pour justement faire un prêt ou pas du tout?
Alors, je vais peut-être choquer certains auditeurs, surtout les jeunes générations, mais ce qui n'était pas normal, c'était les taux de ces dernières années. Ouais. Nous sommes revenus à des taux normaux et c'est bien de rétablir cette vérité-là, puisque en 2023, les gens avaient pour l'habitude de dire les banquiers prêtent plus parce que les taux sont trop élevés, donc du coup on veut pas acheter. En 2005, il faut savoir qu'on était déjà sur des taux de 3-3,5 et que suite à la crise financière de 2008, on avait monté à des taux à l'époque à hauteur de 5%.
Ah oui, d'accord.
Donc 2008, alors pour un vieux schnock comme moi qui suit du siècle dernier, en 96, on était plutôt sur du...
comme vous, Philippe, allez-y.
C'est très bien.
Des 10%, voire plus.
Ah, non,
dans
6,
les années 70.
Ah oui, mais là, vous montez vraiment loin.
Mais
même dans
cheveux.
Les années 96, 97, on était à du 6-7%. Donc sans remonter forcément très loin. Donc à aujourd'hui, sur des taux moyens à 4, légèrement en dessous de 4, sur des longues durées, on est plutôt sur des taux qui sont tout à fait acceptables. Et ça reste le moment d'acheter. On prévoit sur 2025 des baisses un petit peu plus conséquentes, effectivement, des taux, même si c'est toujours très dur de faire des prévisions, parce qu'on peut avoir n'importe quel événement économique qui fait que ça vienne contrecarrer un petit peu tout ça. On pense que d'ici fin 2025, peut-être qu'on sera revenu à des taux de 3%, ce qui, donc du coup, acheter maintenant, mais acheter même à 4%, parce qu'encore une fois, c'est des taux normaux, et rien ne vous empêchera de renégocier fin 2025 des taux plus bas par rapport à ça.
D'accord, donc la renégociation, je vais y arriver, est possible, quoi, à tout moment, c'est envisageable.
Donc, nous, c'est ce qu'on explique aux gens quand ils viennent nous voir et qu'ils nous demandent si c'est le moment d'acheter à aujourd'hui, on leur explique que vaut mieux acheter maintenant, plutôt que d'attendre fin 2025 quand les taux vont être plus bas, donc des prix d'achat qui seront et peut-être un peu plus élevés, puisque du coup, il y aura plus d'acquéreurs sur le marché. Et on peut racheter ou renégocier son crédit. Alors, soit renégocier avec son propre banquier, c'est ce qu'on a l'habitude un peu de dire et de faire. Mais si son propre banquier qui a fait son prêt quelques années auparavant ne le souhaite pas, on fait ce qu'on appelle un rachat de crédit via un autre banquier, moyennant les pénalités de remboursement par anticipation, les frais de nouveaux crédits, et du coup, on peut faire baisser sa mensualité ou sa durée. Mmh. On dit qu'il faut qu'il y ait un point d'écart pour que ça vaille le coup.
D'accord.
Moi, je dis à chaque fois, on fait le calcul pour vous, on regarde, c'est vous qui jugez si c'est pertinent. Mais en tout cas, il y a toujours une solution en cas de baisse de taux pour retravailler sur son crédit.
D'accord. Alors, vous parlez des banquiers, justement. Est-ce que les banques prêtent facilement en ce moment? Et puis, sur combien de temps, surtout, ils demandent des remboursements ensuite?
On est limité avec les critères d'un gros mot, le HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, qui nous a bien embêtés depuis septembre 2021, qui a imposé aux banquiers de respecter les 35% d'endettement maximum. Par dérogation, il y a 20% des dossiers qui peuvent dépasser ces fameux 35%. Et qui a imposé aussi que la durée maximale d'un prêt immobilier soit faite sur 25 ans. Ce Haut Comité de Stabilité Financière, qui est composé du gouvernement et quelques énarques, a voulu légiférer pour rassurer le marché bancaire français, mais en sachant que depuis des décennies, le marché bancaire faisait quand même bien son métier. Donc aujourd'hui, effectivement, ça a un peu freiné le marché immobilier, mais à aujourd'hui, on le sent depuis début 2024, les banquiers redeviennent très actifs sur la partie prêt immobilier. Ils le remettent en fer de lance sur la conquête de nouveaux clients. Et cette concurrence explique un petit peu cette baisse de 0,20, 0,30 en termes de taux qu'on a eu depuis le début de l'année, et cette volonté de reprêter. Après, les dossiers qui étaient infinançables il y a 6 mois, 1 an ou 3 ans le resteront. Et aujourd'hui, ceux qui sont finançables, on les finance sans aucun souci, avec des notions d'apport et de taux d'endettement respectés.
Il y a un mot qui est apparu il y a quelques temps, c'est pas le taux d'endettement, c'est le taux d'usure. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme?
Effectivement, ça a été souvent une confusion dans la tête des gens. Ah ben, je peux pas emprunter parce que je respecte pas le taux d'usure. Et et ça pouvait être très surprenant parce qu'on a toujours raisonné sur le taux d'endettement.
C'est ça.
Donc le taux d'endettement étant le ratio entre les revenus et les charges prêts immobiliers compris.
35% là donc.
C'est ça. Et alors il y en a d'autres critères, donc trois qu'on pourra développer après, mais pour faire sur le taux d'usure, en fait le taux d'usure est un autre critère, une autre composante du prêt immobilier. Si je vous parle du TUG, tout le monde sait ce que c'est que le TUG. Le TUG est le taux effectif global, c'est le coût maximal de votre crédit quand
avec
on prend les intérêts, l'assurance, frais de garantie, frais de dossier et frais de courtage. Et ben le taux d'usure, ce n'est ni plus ni moins que le TUG maximal que l'État impose aux banquiers de ne pas dépasser. D'accord. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la notion de revenu ou de charge du client, mais c'est un coût maximal de crédit que le banquier ne peut pas dépasser. Le taux d'usure existe depuis 1960 à peu près. Simplement, son mode de calcul est assez dépassé, entre guillemets, puisque il est fait sur les prêts décaissés sur les 3 derniers mois. Enfin, c'est un mécanisme un petit peu complexe.
C'est votre métier, hein, ça.
Ah oui, alors, ça a été notre métier d'essayer de trouver les solutions, parce qu'en fait, avec la brusque évolution des taux en 2023, le calcul du taux d'usure n'a pas suivi et a entraîné des refus de prêts, mais pas pour des problèmes financiers.
Vous avez un problème, il a la solution, Philippe Brenet, et notre invité ce matin, c'est donc le moment de nous appeler, peut-être pour emprunter parce que les taux d'intérêt, les taux de prêt sont plutôt pas mal en ce moment. Votre invité, Loïs, c'est Philippe Brenet, il est courtier, il est avec nous jusqu'à 10h, 03 81 833 111. Chaque matin, nos spécialistes répondent à vos questions, et ce matin, Loïs, on en prend pour 20. 20 ans.
Exactement, avec Philippe Brenet hein, qui est là pour nous éclairer un petit peu sur ces prêts, hein, tout simplement. Vous êtes courtier indépendant à Besançon, on le rappelle. Alors justement, le métier de courtier, la question que peuvent se poser pas mal de gens aussi, c'est qu'est-ce que vous prenez comme marge, comment vous payez en fait tout simplement votre activité?
Alors effectivement, on travaille sur honoraires, donc la tarification des courtiers, suivant les enseignes, hein, varie entre 1% du montant du prêt ou du coût du projet, parce que chacun met sa notion là où il la veut, jusqu'à 2%. Hein, on trouve souvent du 2% sur des enseignes nationales ou dans le houdou également aussi. On peut penser qu'il est raisonnable de travailler à peu près à 1% du montant du prêt, ce qui fait déjà une belle rémunération suivant le travail accompli. Et puis, c'est des frais qui rentrent dans le calcul du prêt bancaire, comme les frais de dossier du banquier, et du coup, dans le TEG qu'on a vu tout à l'heure. Et ces honoraires ne sont payables qu'à partir du moment où le courtier a bien obtenu un prêt immobilier au client.
D'accord.
Et que c'est bien ce prêt immobilier qui est utilisé pour son acquisition. Et
donc on attend la fin du processus
pour bien vérifier ça, entre guillemets, c'est souvent le notaire qui fait l'appel de fonds des honoraires du courtier en même temps que les frais d'agence et en même temps que le prix de vente.
Ça fait pas peur aux clients, justement, de se dire on va faire appel à un courtier? Est-ce qu'ils ont pas peur de perdre de l'argent, en fait, en passant par ça? Je sais pas. Hein.
Alors, non, c'est assez surprenant.
Ouais.
Mais c'est vrai que sur 2023, quand on prend des taux qui étaient hyper bas, avec des montants d'intérêt qui étaient relativement faibles. Il y a des enseignes qui prenaient 2% de frais d'honoraires pour des clients. Donc sur des emprunts à 200 000 euros, ça faisait des honoraires de courtage de 4 000 euros. Je ne suis pas sûr que le client, quand il regardait au bout du compte, il gagnait vraiment les 0,20, 0,30, voire 0,40 que ça pouvait représenter sur son coût de crédit. Alors aujourd'hui, je nuance beaucoup plus ça, puisqu'on est à nouveau sur des taux élevés, donc la part d'intérêt qu'on peut faire gagner au client est quand même plus conséquente. Et puis, en travaillant sur des honoraires entre 1 à 1,5. Tout dépend aussi du montant du projet, entre le client qui va emprunter 70 000 euros et celui qui va emprunter 300 000. C'est vrai qu'il faut aussi savoir s'adapter par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on est sur des prix un petit peu plus raisonnables. Et là, le client ne vient plus forcément aussi à aujourd'hui, contrairement au début des années 2000, que pour de la négociation de taux, et où effectivement on va regarder la rentabilité des honoraires et tout. Il vient aussi à la recherche de conseils sur le départ, sur la mise en place de son prêt et de son projet. Et puis il vient aussi surtout pour l'accompagnement, de se dire j'ai quelqu'un qui fait le tour des banques pour moi, qui est un peu l'avocat de mon prêt immobilier, et en plus qui va avoir des assistantes qui vont s'occuper de toute la gestion administrative. En gros, moi client, je n'ai plus qu'à faire mes cartons et à être prêt pour le jour où j'emménage dans ma maison ou mon appartement.
Donc on parlait de cette fluctuation justement aussi de la demande de courtier en fonction des taux, etc. Vous dites, quand les taux sont plus élevés, forcément on est plus tenté d'avoir recours à des conseils. Et ces taux, vous le disiez aussi juste en off avant qu'on reprenne, là, c'est aussi lié à l'immobilier. Les taux font bouger l'immobilier, les prix et inversement, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, l'immobilier répond aux lois de l'offre et la demande entre des vendeurs et des acquéreurs. Et quand on est sur une période de taux bas, comme on a connu ces dernières années, des acquéreurs très présents sur le marché parce que très solvables avec les taux bas. Donc, du coup, le vendeur qui a une multiplicité d'acquéreurs possibles.
Une quoi?
Vous la ferez au ralenti. Il faudra la réécouter en replay.
On la réenregistrera. On la remettra correctement, pas de soucis.
Lundi matin, c'est pas trop facile.
J'ai fait une Nico là, non mais c'est bien.
On va vous faire un café, il n'y a pas de soucis.
Et comment? Donc du coup, les vendeurs ont plus de facilité pour faire monter les prix. Et aujourd'hui, on commence à engendrer le phénomène inverse.
Très bien.
Philippe, Louise, vous restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve. Vous voyez, moi aussi, ça m'arrive.
Ah, bah, voilà.
Même au meilleur. On se retrouve dans quelques instants. On parle de prêts immobiliers ce matin, de taux d'emprunt, de taux d'usure, de taux de remboursement avec notre courtier Philippe Brenet. Il est notre invité ce matin, il est votre invité, Loïs. Bienvenue chez Philippe Brenet, à votre service. Jusqu'à 10h encore avec vous, Loïs Paton. On parle avec Philippe et avec vous, Loïs, de taux d'emprunt, de taux d'usure, de crédit logement, peut-être même d'hypothèque.
C'est ça, on va pouvoir en tout cas vous offrir un café également pour que vous puissiez vous retrouver, Carole, un petit peu après. Mais en effet, on parle de tout ça ce matin. Vous êtes spécialisé dans l'immobilier, justement, Philippe, également, hein, dans votre enseigne, tout simplement. Alors, pour quel type de logement c'est intéressant aujourd'hui de faire un prêt? On sait que ça peut faire peur aujourd'hui d'investir. Est-ce que c'est vraiment un bon moment dans l'immobilier pour investir et acheter un appartement, une maison par exemple?
Oui, tout à fait. Il y a quand même une devise quelque part qu'on répète souvent depuis pas mal d'années, c'est que quitte à enrichir quelqu'un entre guillemets, autant enrichir un petit peu un banquier et puis beaucoup soi-même, hein, puisque moi, mon premier employeur qui était effectivement dans les années 1900 et quelques m'avait expliqué que un prêt est une formule d'épargne.
D'accord.
Ah, ça peut être très surprenant oui. comme ça, mais en fait, c'est au lieu d'attendre d'avoir épargné suffisamment pour acheter votre bien, votre banquier vous avance l'argent et vous constituez votre patrimoine. Donc, c'est toujours le moment d'acheter pour devenir propriétaire au départ, surtout sur les primo-accédants. C'est ce qu'on retrouve un peu sur le marché aujourd'hui et qui fait le dynamisme un petit peu du marché actuellement. Et même si on enrichit, certes, le banquier, mais le banquier, c'est un commerçant, il est là pour ça. Il est là pour collecter de l'argent sur de l'épargne et le redistribuer sur du crédit, donc ça mérite effectivement une rémunération d'intérêt derrière. Et mais on s'enrichit soi-même, même si on n'a pas forcément l'impression au départ. Donc c'est toujours le moment. Et puis après, vous avez les projets de vie qui font que, eh ben, vous commencez par un appartement. Et puis c'est plus le projet de vie et la nécessité de votre situation qui fait que vous changez de logement et changez de projet immobilier.
Mon père m'a toujours dit, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais pour ça démarrer complètement, petit, et on démarre par un petit chez soi pour finir un grand chez soi.
Ça se réfléchit donc sur le long terme, en fait, hein, c'est ce que vous dites.
Oui, tout à fait. Alors, on dit que la durée moyenne au départ d'un crédit en France, c'est à peu près 22 ans.
D'accord.
Mais sa durée de vie, alors elle était sur 8 ans ces dernières années, elle s'est un peu allongée, mais la durée de vie d'un prêt immobilier est de 9 ou 10 ans. Parce que quand vous empruntez sur 20 ou 25 ans, vous pouvez avoir alors des choses pas très drôles, mais du décès, de la séparation, mais vous pouvez aussi avoir une succession avec une rentrée d'argent, une donation avec une rentrée d'argent, et puis des changements de lieu de vie qui font que vous achetez plus grand, parce que vous avez la famille qui s'agrandit, et puis quand vous prenez un petit peu d'âge, eh ben, vous faites le schéma inverse, vous revendez la grande maison pour revenir sur des logements un petit peu plus d'un petit chez soi à nouveau, tout à fait.
Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous en tout cas.
Oui, merci beaucoup,
cher Philippe.
Merci à vous deux.
À bientôt, Loïs, on se retrouve demain.
Demain, avec grand plaisir, Carole.
On parlera de quoi demain ?
Eh bien, plein d'autres choses, en tout cas, à découvrir demain pour cette émission, donc à votre service. On aura évidemment l'occasion de continuer à vous aider au quotidien. Donc, restez bien avec nous dès demain.